Attention les auditeurs, c'est bientôt l'heure d'écouter un regard d'explorateur. Et si notre vision n'est pas la même, on est sur Oxygène FM. Un regard d'explorateur.
Bonjour à toutes et à tous sur les ondes d'Oxygène FM et notre petite émission toujours sympathique en regard d'explorateur. Aujourd'hui, nous continuons avec la même lancée que la dernière fois avec trois chroniqueurs.
Hein, yes.
Donc Maya.
Salut.
Max.
Salut Serge, salut Koba, salut Maria.
Et moi. Et voilà, et aujourd'hui nous avons comme invité, nous recevons Koba.
Oui.
Qui sera donc en deuxième partie de notre émission, parce qu'en fait, notre fil de l'émission, c'est quatre petites rubriques. La rubrique fun de Maya, on passera ensuite à l'invité. Ensuite, Max nous fera le top de Max, et on finira avec ma chronique soporifique. Allez, Maya,
oui,
alors tu nous as fait une super chronique.
Ah oui, je vous ai concocté. Je suis très dans l'humour noir en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. J'ai un peu la...
C'est que voilà. c'est l'humour des aveugles, ça. Hein,
oui, c'est bien. Ouais. C'est peut-être pour ça, c'est en fait. Bien joué. Et du coup, moi, je vous ai préparé quelque chose sur les morts insolites. Ah ouais, un sujet sur lequel on peut aussi rire, merde.
C'est vrai, moi ça m'a fait très rire le jour où j'ai vu un coffre-fort suivre un corbillard.
Donc vers l'an 20 avant Jésus-Christ,
oula.
Claudius Drusus, ou Drusus, je sais pas comment on dit en latin, fils de Claude et de Plautia Urgulanilla, bon, on s'en fout un peu des noms, il est mort à Pompéi.
Ah.
Ouais. Comment ?
Après ou avant l'explosion du Vésuve ?
Ouais, ça sent la lave en fusion, ce truc-là, quand même, non ?
Non.
Ah non ?
Koba, t'as une idée ?
Pompéi, ouais, je dis pareil. Hein.
Il a avalé trop de cendres.
Je pense qu'il a avalé un truc.
Il a avalé un truc, effectivement.
Alors ?
Mais en fait, cette espèce d'âne qui me fait dire, il a lancé une poire en l'air. Et il a tenté de la rattraper avec la bouche et il s'est étouffé.
Avec grande bouche quand même. Hein, bah ouais. Ou petite poire.
Ou petite poire. On continue. Alors, j'ai fait chronologie histoire, hein, d'accord. 882. Le roi Louis III, arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne, alors qu'il poursuit à cheval une jeune fille qui résiste à ses avances, meurt. De quelle façon ?
Il se prend une branche.
Ah, t'es pas loin.
Ouais, je crois que c'est un peu plus gros qu'une branche, il me semble.
Ouais, c'est plus gros qu'une branche.
C'est un animal qui saute dessus, peut-être.
Non,
t'as pas révisé, Koba.
Il se prend le pied dans un trou.
Non. En fait, il se prend le linteau de la porte au front.
Ah oui.
Et il s'est fracassé le crâne. Voilà,
il a,
voilà.
Il a oublié qu'il était à cheval et donc
ouais,
ça s'est pas passé.
Pas.
Surtout qu'en plus, à l'époque, je crois que les portes étaient très basses.
Hein, en
parce
plus,
que comme
ouais.
Les jeunes n'étaient pas grands.
1277, le pape Jean XXI meurt écrasé, victime de l'effondrement d'un plafond de la cathédrale de Viterbe, dont il dirigeait les travaux. Eh ouais, comme quoi, hein.
Ah oui. Plus près de toi, mon Dieu.
Ouais, c'est ça.
Alors, maintenant, une condamnation. Georges, duc de Clarence, est condamné à mort. Quelle est sa... Quelle façon de mourir ? Quelle est sa sanction ?
Ah, c'est-à-dire que sa mort, c'est même pas lui
pourquoi
qui... C'est pas un accident, quoi.
Non, non,
on a vraiment
il est
décidé...
condamné à mort. Il est condamné à...
Pourquoi ?
Ça, je sais pas. Non. Mais c'est ce qui est important, c'est pour comment il meurt, en fait.
Ah, comment
Ben, en fait, à l'époque, c'était quoi ? C'était
écartelé.
Le bourreau, non ?
Non, c'est pas écartelé.
Donc c'était décapitation, voilà.
On l'a dit, mort insolite, alors tout ça, c'est connu,
par,
quoi.
Par étouffement de poire, mais est-ce que c'était volontaire, hein ?
Il a peut-être raté la hache et il a utilisé le manche.
Non, mais c'est une mort que j'apprécierais, en fait.
Ah,
il est mort noyé dans une barrique de vin de Malvoisie.
Ah, bravo.
Ouais.
C'était sa condamnation, ça ?
C'était sa condamnation.
Tiens, il y avait des choses de condamnation.
Mais ouais, moi je veux bien. Alors là, je vous pose pas la question, je vais vous l'annoncer direct. En 1518, il y a 400 personnes qui, pendant l'épidémie d'Encentant, ça s'appelait comme ça, ont dansé sans se reposer pendant plus d'un mois. Et il y en a 400 donc ces 400 personnes-là sont mortes d'une crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou d'épuisement.
Ils ont pris un truc, non, quand même.
Je sais pas, peut-être qu'elle est... Je sais pas. Enfin, je connais pas assez en drogue, mais je pense qu'ils devaient...
Il n'y avait pas les extas à l'époque.
Non, mais il y a peut-être de l'ergot de sec, peut-être.
Ouais, des trucs comme ça, je sais pas, ils sont un peu... Alors, le 12 janvier 1519, l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg meurt d'une consommation excessive de melons.
Ça, c'est beau.
Ça. Ouais, c'est beau.
Ça, c'est beau.
Est-ce qu'on sait que si c'est les melons orange, melons beaux ou...
Ça, c'est pas précisé. C'est pas précisé. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'il est mort de la même façon que son père.
Voilà. Ça, c'est encore plus. Tel père et tel fils, quoi.
Voilà, ouais. C'est une sorte d'hommage, quoi. C'est,
voilà.
Mais en fait, quelque part, mourir en mangeant trop, quand on pense que c'est vrai qu'il y a du monde sur ce.
Ouais, je préfère.
Qui meurt de faim.
Oui, je pense pas trop.
La vie est un équilibre.
Oui, je pense pas qu'il se posait la question à l'époque. Hein.
Non, mais pas.
Enfin, moi, je préfère mourir dans une épiderie que de vin.
Voilà, c'est ça.
On est d'accord.
Trop de pépins, peut-être.
Ouais. Ouais. Le maire de Braunau, en Autriche, en 1567, est mort. De façon étrange. Comment? En avalant son stylo.
Le fameux stylo à billes de l'époque.
Je vous donne un petit indice. Hein,
oui.
Avec en un seul mot, quatre lettres, poil. Poil. Poil.
Ah oui, je
genre
sais.
Il n'a pas trop aimé son épilation.
Il
avait une barbe
tellement longue, il s'est marché dessus, il s'est rompu le cou.
Exactement.
Oh non, c'est pas vrai.
Une barbe d'1m40.
Oh là là.
Il s'est marché dessus et il s'est cassé
là. Tu vois, s'il faisait 1m90, et c'était bon, mais c'était... le problème, c'est qu'il faisait 1m60, alors du coup, il a marché dessus.
Ça doit être terrible, quand même.
Et ensuite, est-ce que vous savez que ça existe, là, mourir de rire pour de vrai?
Normalement, ça me semble bien.
Ouais.
Oui, et ouais, ça existe,
oui,
vraiment.
C'est sûr.
Le roi un roi birman, alors je ne prononcerai pas le nom, hein, en 1599, est mort de rire, hein, en apprenant de marchands italiens que Venise était une république et n'avait pas de roi. Ça l'a fait beaucoup rire, il est mort de rire.
Alors, il est mort.
Bon, j'espère que notre émission ne fera pas de victimes.
Louis de Bourbon-Soissons, en 1641, est mort pendant la bataille de la Marfée. Comment?
Un coup d'épée, peut-être? Ce serait pas très insolite dans une bataille.
C'est pas très loin, mais c'est pas un coup d'épée.
Ah, c'est peut-être lui qui se l'est mis lui-même, non? C'est pas ça?
On y est. En fait, c'était pas un coup d'épée, c'est le pistolet, en fait. Il avait l'habitude de relever sa visière avec le pistolet et il s'est tiré une balle dans la tête.
Ça, c'est peut-être un peu mérité, quand même. Je veux dire, ça, c'est de la sélection naturelle, quand même. J'ai envie de dire. Parce que ces personnes-là méritent un petit peu de...
On avait dit humour noir, on y est jusqu'au bout. Hein.
Non, mais c'est pour avoir un peu de plomb dans le cerveau.
Ouais, c'est peut-être ça. En 1771, le roi Adolphe Frédéric de Suède meurt à la suite de problèmes de digestion.
Trop de melons. Oui. C'est pas le mec
trop
qui
de
a
melon.
Mangé...
Oui, c'est ce que j'avais dit, trop de melons. Non, c'est pas trop de melons, on n'y est pas loin. Enfin, il a beaucoup trop mangé. En fait, il venait de faire un repas composé de, je cite, homard, caviar, choucroute, hareng, poisson fumé, le tout arrosé de champagne. Bon, jusque-là, ça va. Le truc, c'est qu'il a repris 14 fois de son dessert favori, le sembla, alors je sais pas trop ce que c'est une genre de truc d'avoine ou je sais pas quoi là que tu mets dans un bol de lait.
D'accord.
Voilà.
Oui, c'est un dessert qui tue, quoi.
Voilà. Et en fait, en Suède, il est connu pour être, enfin pas pour les aux, enfin les enfants le connaissent comme le roi qui a mangé jusqu'à mourir, quoi.
Ouais.
Voilà. Alors 1780. Nicolas Gilbert, poète français, meurt après avoir avalé la clé de la cassette au cours d'un accès de démence.
La clé de la cassette, les petits coffres.
Quoi.
Ah d'accord, oui.
Là où était, voilà. Ses économies.
Voilà.
Il s'est dit, tiens.
Voilà.
Motus et bouche cousue. Enfin, ouais.
Et c'est pas bon, hein, de péter un plomb trop fort. Hein. C'est pas bon de péter un plomb trop fort. Hein. Soit tu prends une balle, soit t'avales la clé.
Ouais, c'est ça.
1792, Gabriel Sanson, le fils du bourreau français Charles-Henri Sanson, est mort comment?
Ah oui, je sais ça.
Ah, tu les sais tous. C'est,
si c'est son père qui l'a tué, c'est tragique.
Je sais. Non. En fait, après, je crois qu'après avoir fait son travail de bourreau et il tombe pas de l'échafaud, il se tue.
C'est ça, en fait, il a voulu présenter la tête coupée de, d'un condamné à la foule. Il a pas regardé où il est marché et il est tombé de l'échafaud.
À la foule, il en a pour son argent. Là, pour le coup, ils en ont deux pour le prix d'un. Hein,
c'est ça.
Comme quoi, le crime ne paie pas.
Le crime ne paie pas. Alors là, c'est une petite histoire un peu plus longue. En 1871, un avocat et un homme politique nord-américain, Clément Vallandigham, veut prouver de façon irréfutable l'innocence d'un de ses clients. D'accord ? Ce client est accusé d'homicide lors d'une fusillade dans un bar. Et en fait, il va reconstituer les faits d'une manière tellement réaliste qu'il se blesse mortellement avec un pistolet qu'il croyait déchargé.
Ah.
Dommage, pas de chance.
La reconstitution était plus vraie que notre
flagrante.
C'est ça.
Et il a gagné le procès.
Méfiez-vous des reconstitutions.
En 1884, Albert Pinkerton est un détective privé. Il glisse et il chute sur le trottoir. Comment fait-il pour mourir ?
Jusqu'ici, tout va bien. L'important, ce n'est pas
il se noie dans le caniveau.
C'est l'atterrissage.
Ah, c'est vrai que ça aurait pu être tordu, mais non.
C'est sur quoi il glisse qui est,
Non, non. C'est la mort.
Donc j'aurais été éviter la peau de
banane. Oh, il doit tomber sur un truc pointu, non ?
Ouais. En fait, il s'est mordu la langue.
Oh.
Et il y a la gangrène qui s'est installée.
Ah, carrément, d'accord.
Voilà. Ah, c'est dégueulasse.
Ouais, là, c'est
dégueulasse. 1894, Amédée Powells est anarchiste individualiste belge. Et il n'est pas doué. Parce qu'en fait, quand il a voulu commettre un attentat à la bombe dans une église de la Badelaine à Paris, le 15 mai 1894, eh bien, au moment d'ouvrir la porte, il s'est raté. Il a retourné sa marmite et il se l'est fait exploser à la figure.
Ah oui, c'est sûr.
Il est pour lui.
Si ça pouvait arriver à tous les terroristes, ça.
Ah ouais, faut leur montrer.
Ça sauverait des vies.
Faut pas leur montrer comment on ouvre les portes. Alors, en 1912, on s'approche. Le tailleur Franz Reichelt à 33 ans lorsqu'il meurt. Comment meurt-il ?
Je sais pas.
S'il fait un costume trop petit et étouffé, non ?
Il avait une épingle.
Ah, oh là là,
en fait, il a fabriqué un manteau parachute et il a voulu l'essayer.
Okay.
Il a sauté du premier étage de la Tour Eiffel en public.
Voilà. On revient sur les morts un peu méritées.
Voilà.
Ou des gens qui l'ont un peu cherché, on va dire.
C'est ça. En 1930, William Cogut, un détenu, est condamné à mort à la prison de Saint-Quentin aux États-Unis. Et il s'est suicidé avec une bombe artisanale. Bon, je vous explique comment on crée une bombe artisanale en prison. Il a utilisé plusieurs paquets de cartes à jouer, les cartes dame, roi, valet, tout ça, et un des pieds de son creux du lit. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, dans les cartes à jouer, il y avait une nitrocellulose qui était très dans l'encre, qui était très inflammable en fait.
Oui, ça pouvait marcher qu'à l'époque, ça.
Oui, qui était fabriqué à base de nitroglycérine.
Voilà.
Il fallait pas les faire tomber par terre, attention.
Il fallait le mouiller un peu et en fait, voilà, il a utilisé le chauffage pour déclencher le truc. Voilà, alors ces cartes-là ne se font plus. Donc,
oui,
c'est pas la peine
merci.
D'essayer.
Non, elles ne se font plus. En prison, on ne les trouve plus. Et je pense qu'ils ont dû arrêter aussi les pieds de lit creux.
Voilà.
En 1960, Alan Stacey, je ne sais pas comment on prononce, je ne suis pas très bonne en anglais, un pilote britannique meurt lors du Grand Prix de Belgique. Après quoi ?
Ce serait trop facile, j'imagine, un carambolage. Donc,
Non. Un carambolage, mais un peu original.
Il s'est pris l'écharpe dans l'hélice.
Non, c'est un carambolage. Avec un oiseau en pleine tête.
Ah oui.
Voilà, dommage. Hein. Ole Benzen, orthophoniste danois, lui aussi, il va mourir de rire en regardant le film Le poisson nommé Vanda.
D'accord.
Et il faut savoir que son cœur a battu entre 250 et 500 pulsations par minute avant de mourir d'un arrêt cardiaque.
Ah, parce qu'il avait pensé à se mesurer au cas où il mourrait.
Je ne sais pas exactement qui nous a pu le voir. Bon, après, on est en 1989, donc...
Il disait ça au début du film, pensez à prendre un tensiomètre. Au cas où, comme ça, vous saurez combien de pulsations.
Très bon film quand même. Hein.
Ouais, mais bon, de
mais
là à mourir.
Il m'a fait rire aussi,
rire.
Mais je ne suis pas mort.
Non, ouais, ouais. De là à mourir de rire, enfin bon. Il avait le rire facile, c'est un petit joyeux, un joyeux luron, ouais. Sans doute. Hein. En 1993, Gary Hoy est un avocat de Toronto qui a voulu prouver que les vitres du Toronto Dominion Center
étaient solides.
Étaient solides.
Il s'est trompé.
Ouais, parce qu'il s'est jeté contre l'une d'elles. Elle ne s'est pas brisée, mais par contre, c'est le cadre qui est tombé. Et lui, il a fait une chute de 24 étages.
Donc, il a quand même prouvé que la vitre était solide.
La vitre était solide.
Encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui est un peu mérité. Quoi. Mais dis-donc, Maya, ces personnes qui sont mortes, elles n'ont pas gagné un prix par hasard?
Si, c'est peut-être
à la fin de la chronique. Non,
pas toutes, mais t'en parleras, je te laisserai la parole après. Pas toutes, hein, mais il y en a quelques-unes, ouais, surtout les plus récentes, pas les anciennes. Ouais. En 2008, Adelir Antonio de Carli est un prêtre catholique brésilien qui est mort durant une tentative pour réaliser un vol à l'aide d'une grappe de ballon gonflé à l'hélium.
Ah.
Ouais, mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon, le type. Il n'est pas bon, il n'a pas mis. Je sais pas, il s'est raté. 2013, un Brésilien de 45 ans est mort écrasé par une vache durant son sommeil.
Du bord de la vache ou le sien, quoi.
Son sommeil à lui.
C'est ça, c'est la vache, elle s'est endormie en fait. Et puis,
Non, mais là où c'est tordu, c'est qu'en fait, là, il avait sa maison dans la pente, d'accord.
La vache est tombée
au-dessus.
Oh mon dieu.
Elle est tombée à travers le toit.
C'est vraiment pas de bol, quoi.
C'était une vache, je l'ai eue. Qui a essayé de se retourner dans la pente.
C'est vraiment pas de bol, non, je suis d'accord.
Et son fils qui a hérité de la ferme, il a pris des moutons plutôt. Voilà, moi, s'il se fait tomber
des moutons de ou sans, des petits. Et enfin, le dernier, en 2014, c'est un Mexicain de 21 ans qui est mort après s'être accidentellement tiré une balle dans la tête en voulant faire un selfie avec une arme chargée.
Alors,
qu'est-ce qui est dangereux? De faire un selfie ou d'avoir une arme chargée, je ne sais pas.
Il y en a un qui est dangereux mortellement, l'autre c'est pour la dignité, quoi. J'ai envie de dire, c'est ça.
Mais les deux, parce que tu vois, tu parles de cet exemple de la selfie, mais je crois qu'il y a quelqu'un en se prenant une selfie quelque part au Grand Canyon, qui a reculé, parce qu'il trouvait que la mise au point n'était pas bien derrière, et il a reculé sans regarder, et puis il a fait une chute vertigineuse.
Est-ce qu'il y a la photo quand même du selfie du mec qui s'est tiré dessus, quoi? Est-ce que ça valait le coup, quoi?
Ça, je sais pas, je l'ai pas vu. Enfin, après, bon, j'irai pas jusque là, mais voilà. Et oui, effectivement, ce sont, il y a des prix, ouais, qui sont des, qui donnent les 10, les morts les plus ridicules et les plus insolites. Ça s'appelle les Darwin Awards.
Voilà. La sélection naturelle, par la stupidité.
Non, mais bientôt, ce qui va être vraiment exceptionnel, c'est de mourir normalement. Hein.
Ah oui, oui. Ou survivre peut-être, hein, c'est ça.
C'est ça. Ça va devenir rare bientôt.
Ouais. Après, après, il y a des morts qui sont vraiment. Ils se le cherchent, et puis il y en a d'autres. Voilà, c'est vraiment un manque de bol, quoi. Ouais, la vache qui te tombe dessus à travers le toit de la maison, quoi, voilà.
Heureusement que les vaches n'ont pas des ailes. Hein.
Non, heureusement. J'aimerais pas mourir écrasé par une vache qui fait ses besoins.
Ou par n'importe quoi d'autre, hein, de toute façon. J'aimerais mourir écrasé, de toute façon. Hein.
Enfin, voilà. Bon, voilà.
Eh bien, c'était comment rigoler d'un sujet
pas rigolo.
D'un sujet morbide.
Alors, content d'être venu, Koba.
Pas mal.
Elle a dégondé cette fois-ci mon émission, ma rubrique. Elle a dégondé.
Ça met en condition, ça va.
Tout va bien. Bon. Tout va très bien.
Eh bien,
on va passer à la rubrique, à l'interview de Koba là, parce que.
Eh bien, c'est le moment de passer à notre entretien.
Très bien.
Avec notre invité, donc Koba.
De suite, ça pose.
Merci d'être ici avec nous.
Merci de m'avoir invité. Super.
Et on va décortiquer un peu tout ce que vous faites, qui vous êtes un peu. Dans la limite du correct, évidemment.
Oui.
Alors, Koba. Alors, moi, je connais l'atelier Koba Pamier, puisque mon fils a participé à certains de vos ateliers, et vous allez nous expliquer ce que vous faites dans cet atelier.
Dans ces ateliers.
En fin de compte, l'association, on a monté une association qui s'appelle Atelier d'expression de Pamiers, où on a des ateliers différents en art plastique, de l'expression. Ça va être de l'expression, quoi. Art plastique, théâtre. On essaye de faire, dans cette association, vivre des choses simples et que ce soit agréable. Voilà, on reste dans le agréable. C'est surtout ça qui m'importe, moi, quand je fais mes ateliers. Donc, j'ai des ateliers de dessin. On a des ateliers de peinture Arnaud-Sterne.
C'est une technique de lâcher...
complètement, lâcher prise. Voilà, c'est Arnaud-Sterne, après la guerre, a monté des ateliers pour les orphelins de la guerre. Et puis, il en avait énormément et il s'est rendu compte... Bon, je vais très vite hein, pour expliquer, mais il s'est rendu compte que à travers la formulation, c'est ce qu'il a découvert et qu'il a appelé, comme ça, en fin de compte, on fait un peu tous pareil. On dessine un petit peu tous pareil. Après, on a chacun sa propre, ses propres sensations, sa propre
sensibilité.
Mais... Le dessin est fait de manière, je dirais, universelle.
Tu dirais quelle main, quoi ?
Alors, dans les ateliers Arnaud Stern, tu peins surtout avec de très beaux pinceaux en poils de martre. J'exagère de dire ça, mais on a du très beau matériel. On peint avec de la peinture à base de fécule de pommes de terre. On a 19 couleurs sur une palette et on se laisse aller complètement... Voilà, ça sort. Oh, pas de commentaires ni jugements dans l'atelier.
Même si on n'a pas de sensibilité artistique particulière, c'est vraiment...
Surtout si on croit qu'on n'en a pas, on peint, on se laisse aller.
L'idée d'être dans le moment,
quoi, en fait, un petit
peu. Et dans la couleur. Okay. On se laisse aller complètement. Et c'est fantastique. Alors, il y a quelques petites règles que j'explique dès le départ, parce qu'une couleur reste une couleur, on ne peut pas mélanger sur la table palette. On peint sur les murs. Après, je suis, moi, le servant du jeu de peindre. J'enlève les punaises quand ça gêne. Je change les feuilles. Je prépare des mélanges. Je mets une feuille au-dessus, en dessous, sur les côtés. J'essaye justement à ce que, vraiment, quand la personne vient, qu'elle puisse peindre et qu'elle puisse s'éclater vraiment avec la couleur, quoi. Alors, c'est pour ça que Arnaud appelait ça les ateliers du jeu de peindre. Et c'est vraiment un jeu. Voilà. Donc j'ai cet atelier-là aussi. Et puis j'ai un atelier rue Gabriel Péri de céramique. Là, c'est pareil. On fait de la céramique qu'on met jusqu'à la couleur.
C'est pas de la poterie, hein. C'est du modelage.
On fait de la poterie.
Avec un tour tournant
Non, on peut ça on peut en faire, mais ça, je ne peux me permettre quand j'ai un gros groupe de dire aujourd'hui on va faire du tour, c'est pas possible. Donc ça c'est vraiment de l'individuel. Ça oui, on en fait, mais en individuel. Surtout ce qui marche très très bien, ce sont les ateliers où on se retrouve tous ensemble, tout public confondu, parce que moi je fais pas de tranche d'âge, je trouve ça pas bien. Je trouve que c'est tellement agréable qu'un enfant puisse montrer à une mamie ou
le mélange intergénérationnel, quoi.
Mais c'est extraordinaire, c'est génial, c'est fantastique. Et justement, j'ai même aussi des enfants qui sont en situation de handicap qui viennent avec des enfants qui sont scolarisés, non scolarisés, des mamies, des mamans, des copains des mamans. Je dois dire que j'ai tout public, des bébés d'un an qu'on assoit sur une chaise et puis on lui donne à tripoter la terre. Enfin, voilà, l'argile. Le but du jeu, c'est vraiment que tout le monde prenne conscience que l'argile, voilà, c'est... Quand on est devant une plaque avec un morceau d'argile et qu'on touche, je crois que toutes les sensations passent à travers le corps, quoi. C'est tellement agréable... Et puis, bon, l'ambiance. Quand on a un bon groupe, qu'il y a des tout petits qui rigolent, qu'il y a des plus grands qui donnent des blagues, ça discute. c'est très familial, convivial. Et ce sont des ateliers d'expression. Et j'insiste sur ce mot, parce que plus je le fais, plus je m'aperçois qu'en fin de compte, l'expression ne passe pas qu'à travers les arts plastiques. On est dans une situation de bien-être. Quand ils viennent à l'atelier, les gens, c'est du bonheur. Je peux pas dire ça autrement, quoi. J'ai vraiment l'impression de faire vivre le bonheur dans mes ateliers. Donc, on se respecte. C'est aussi ça. On apprend à travailler tous ensemble. Donc, apprendre souvent à parler un peu plus fort ou un peu moins, ou respecter le copain, ou se lancer, prendre parole. Enfin, il y a toutes sortes de figures. Aucun atelier n'a jamais été le même. À chaque fois, en fin de compte, quand je fais un atelier, c'est un atelier différent. Et ça, c'est extraordinaire.
Oui, il est modelé, finalement, l'atelier par la présence de chaque
exactement.
Personne, étant chacun individuel et unique,
exactement.
Apporte finalement ce qu'il est.
Exactement.
Et donc, comme c'est pas ça. Forcément les mêmes gens qui reviennent, chaque c'est fois, ça. Il y a tout le temps cette variation.
C'est ça. Après, aucun jugement ni commentaire. Ça, j'y tiens, quoi. Ils sont pas là. C'est pas un cours.
On peut quand même exprimer aussi ses sentiments. Par exemple, si y a l'œuvre de son voisin qui nous touche, qui nous plaît, qui nous fait sentir quelque chose, c'est quand même encourageux.
Ça se fait tout seul.
Voilà.
Donc, quand j'amène une poterie que j'ai sortie du four, qu'elle est terminée et qu'elle est magnifique, et que tout le monde la voit, c'est ça aussi qui fait que l'atelier a son importance. Donc. C'est génial, quoi. Vraiment, je peux le dire comme ça. Après, à travers tout ça, l'expression, pour moi, c'est tout. Donc, par exemple, je sais que... Moi, j'aime bien la musique classique. Il y a toujours de la musique classique dans mon atelier. Parce que j'en perçois aussi que tous nos sens soient en éveil quand on le fait ensemble. On vient une heure et demie vraiment pour se libérer de choses qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de faire, parce qu'on est toujours contraint, obligé, les heures... il y a tellement de choses, on a tellement maintenant de choses...
Et puis se libérer d'une façon...
agréable.
Où on n'a pas trop forcément l'habitude, ou en tout cas que les gens ne pensent pas forcément à exprimer de cette façon.
Exactement.
Et du coup, tu fais aussi du théâtre, du coup ?
Et alors, du coup, je fais aussi du théâtre avec l'ADAPI. J'ai monté une petite compagnie en 2016 avec 15 personnes. On a monté une première pièce de théâtre qui s'appelait « Le défi des champions ». Extraordinaire. Alors ça, c'est fabuleux. J'adore, quoi, parce que ces gens sont tellement gentils. Ils veulent tellement faire bien qu'on y arrive, mais avec des facilités incroyables, quoi. Je suis assez carrée, je l'avoue. Je suis quand même assez carrée comme Koba, je l'avoue.
Et parce que les autres Koba sont pas très carrés.
Non, je trouve que effectivement, je loupe pas quand on vient dans les ateliers. J'essaye de vraiment d'influencer les techniques, les envies par tous les moyens. Je crois que c'est pour ça que je dis tous les sens marchent. Je peux très bien élever un peu plus. Je m'aperçois que même ma voix a de l'importance. Mais je peux avoir la voix un peu forte avec le sourire. Et ça, ça marche, quoi. Je crois qu'on est vraiment dans un monde un petit peu à l'envers. Enfin, pour moi, je dis ce que je pense, là. On est dans un monde à l'envers. On a des gens qui sont... Je dirais pas faibles, parce que du tout. Je me rends compte qu'ils ont une force incroyable. Je dirais que ce sont des gens qui sont vraiment différents et qui prennent la vie... autrement. Et on est obligé de leur inculquer des choses comme nous, entiers, on aimerait que ça se passe.
Ah ben, faut inculquer les normes et les valeurs d'une société, voyez.
Voilà, c'est ça. Et ça, non. À l'atelier, on essaye justement de voir que quand il y en a un qui veut et qui peut pas, il peut. Quand il y en a un qui a du mal, on l'aide. Et je crois que ce théâtre, c'est ça.
Ça me fait penser un peu au fait qu'on inculque aux enfants des cadres, et après on leur apprend à sortir du cadre. Et c'est un peu dommage, parce qu'on devrait directement leur dire, mettez pas de cases là, c'est bon, on y va.
Il y a tellement de phases dans la vie. Quand on est tout petit, complètement innocent, innocent et de moins en moins innocent, j'avoue.
Je confirme.
Je trouve quand même que le monde change beaucoup. Oui. Entre mes ateliers que je faisais il y a 35, 40 ans, et maintenant, c'est plus du tout pareil. Et justement, c'est à moi... De me fondre dans ce nouveau public. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont angoissés, fatigués. Je le vois, du tout petit au plus âgé, quoi. Et bon, voilà, donc les ateliers, surtout avec le théâtre, là j'avoue qu'avec mes copains du bric-à-brac de l'extrême, mes super comédiens, parce que j'ai vraiment des super comédiens qui donnent à 100%, je dirais, ben, voilà, leur envie de monter sur scène. On essaye vraiment de tout faire, comme au théâtre, vraiment quoi.
Tout à l'heure, tu parlais des défis des petits champions. Ça, c'était une première.
Oui.
Et après, il y a eu Bleu Bric-à-Brac de l'Estrême qui est une deuxième.
Non, le Bric-à-Brac, c'est le nom de la compagnie.
Ah, d'accord. OK.
C'est le nom de notre compagnie. C'est... Alors,
d'accord.
C'est notre groupe, notre famille, on décide de tout ensemble. Je ne déciderai jamais toute seule en disant, bah voilà, le titre de notre compagnie, c'est ça. Non. Justement, c'est pour ça que c'est riche, parce que... En fin de compte, ils ont appelé le bric-à-brac de l'extrême, c'est vraiment un groupe qui a donné son nom, quoi. Donc, voilà, toute l'importance est là. Les textes, on les écrit, donc on les réfléchit. D'abord, on les réfléchit, on les écrit sur un thème. Après, moi, j'essaye d'organiser pour que tout le monde ait sa parole. C'est assez laborieux. Mais le résultat est fantastique, quoi.
Tu es toute seule à mener cet atelier. J'ai pas trop envie d'employer le mot diriger, si tu veux. J'ai bien compris, mais je veux dire, on va dire orienter l'atelier. Voilà, tu es toute seule comme ça.
On peut dire diriger quand même, parce
d'accord.
que
ça te dérange pas.
Ouais. Ben, on est obligé. On est obligé si on veut aller sur une scène, rencontrer des techniciens, travailler avec des équipes, d'autres équipes. Non, il faut savoir que c'est carré. C'est pour ça que je vous dis, je me sens quand même assez carré, quoi.
Qui est-ce qui choisit les thèmes?
Et bien, ensemble.
Vous les choisissez ensemble aussi? En fonction de
là,
la
là, on est tous les quatre. Je vais vous dire de quoi vous aimeriez parler, là.
Des morts insolites.
De quelque chose qui vous fasse plaisir. C'était juste
les
après
Covid. Ça vous plaisir.
En ce moment, on prépare une autre pièce de théâtre qui s'appelle Le Voyage de Lola. Après Covid, tout le monde était d'une tristesse phénoménal.
Oh, pendant aussi, ouais, je te rassure. Hein.
Ouais, mais moi, quand je l'ai retrouvé, ça c'est sûr, mais quand je les ai retrouvés, c'était après.
Ouais, ça a été
Et pour moi, ça a été des douleurs. Ça a été très dur de les retrouver comme ça. Et il fallait qu'on reprenne. Et on a commencé, on s'est dit, allez, on refait une pièce de théâtre. On a joué un peu les Warriors, puis en fin de compte, waouh. On a commencé le texte d'une prochaine pièce de théâtre. Et je leur ai dit, le premier truc que je leur ai dit, c'est de quoi vous voudriez parler ? Ils m'ont tous presque dit de voyage.
Ah,
alors j'ai dit, allez, c'est, beau, c'est parti. Et voilà, le but du jeu, c'est ça, quoi. Après, tout le monde joue le jeu. Donc, pour répondre à ta question, Max, je travaille avec Christine Petit, moi, qui est animatrice à la DAPI et qui est formidable parce que depuis quelques années, on travaille ensemble. Mm-hmm. Et bon, voilà, quoi, c'est une femme qui donne beaucoup, avec qui je travaille beaucoup, on s'entend très bien. Et alors, effectivement, je dirige la pièce, enfin, je dirige un petit peu l'ensemble du projet, mais bien sûr, Christine est là et m'aide à organiser l'ensemble du spectacle, quoi. Et de tout, on fait tout ensemble aussi. Et d'ailleurs, on joue avec eux. On se met dans le.
Et je suis sûr qu'ils aimeraient pas que vous jouiez pas avec eux, quoi. Hein, de
mais
toute
je
façon,
sais pas
tout le monde. Ah ouais, maintenant.
Je crois qu'ils sont. Maintenant, j'aurais même plus à le dire. Parce que quand on est dans la compagnie, on est des comédiens.
Ben oui, voilà. Ils ont envie de jouer avec vous, quoi.
Et à ce propos, j'en profite, je fais plein de pubs pour l'association. Atelier d'expression de Pamir.
C'est un peu là pour ça quand même. Hein, c'est,
okay.
c'est,
donc,
faut le dire
après,
à pleine voix, il n'y a pas
de
problème.
C'est une petite salle à Verniolle, le relais de poche avec Dominique. Il accepte qu'on vienne faire. Là, on fait juste vendredi prochain, le 17, on fait une petite soirée où.
17 février ?
Ouais, 17 février. On fait un truc sur la vie quotidienne parce que la pièce de théâtre, c'était beaucoup. Je les sentais fatiguées. Donc, j'ai dit, bon, allez, on fait un truc qui casse le rythme. De quoi on aurait envie de parler ? Je dis un truc facile. Et puis, bon, je sais pas, il y a la vaisselle, les trucs. Enfin, je sais pas, il y a des... Voilà, on parle de tout. Donc, c'est venu, j'ai dit, et la vie quotidienne ? Ouais ! Alors, tout le monde a inventé un poème sur la vie quotidienne. C'est génial. Des petits trucs, tout simple, mais... C'est super, quoi. Et on fait une soirée sur la vie quotidienne, voilà, tous ensemble.
Donc,
et là, on est 11 comédiens.
Et c'est le 17 février au relais de poche.
Voilà.
À quelle heure ?
C'est à 20h.
Ok.
Voilà.
Merci. Il faut réserver avant ?
Ben oui, parce que je pense que ça va être très très vite plein, parce que Domi, je crois qu'il a 60 places.
Ouais. D'accord. Il me semble en plus qu'il y a un petit peu de petites restaurations ou petites choses comme ça, alors, ou l'amitié, ou je sais plus, d'habitude de le relais de pas, je fais des choses comme ça, je sais pas pour
accueillir. Je ne sais pas si c'est prévu avec cette soirée. Ah, comme je suis pas dans l'organisation.
C'est pour m'en donner envie.
De tout. Et oui, après oui, je pense qu'on peut on doit pouvoir dîner avant ou après, mais ça faut l'organiser avec lui. Mais avec moi, la compagnie, je sais pas.
Ok.
Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc cette pièce de théâtre, enfin c'est pas une pièce, c'est un amusement, une mise en bouche. Moi j'ai appelé ça parce que je trouve que c'est
un amuse-gueule.
Un amuse-gueule. Ouais, c'est ça, j'adore le genre de petit. J'adore quoi. Voilà.
Merci beaucoup.
Et bon, le bonheur.
Merci beaucoup.
Et bien c'est super.
Alors juste avant de finir, quand même, je voulais demander à Koba, parce que par rapport aux autres ateliers que tu vas faire, cet atelier céramique, tout ça, c'est quand tu accueilles du public, il y a une récurrence, c'est par exemple c'est tous les mercredis, tous les jeudis, on s'inscrit, s'il y a des ateliers pendant les vacances, dis-nous tout.
Oui, c'est tout ça.
Comme ça, tu peux faire plus
aussi
là-dedans.
Je fais des ateliers hebdomadaires, donc le lundi matin j'ai du dessin. Alors après, je reçois aussi beaucoup d'enfants non scolarisés. Qui viennent se régaler à l'atelier. Donc j'ai le lundi matin du dessin, le mardi après-midi aussi, le mardi après-midi j'ai un atelier de céramique pour aussi les enfants non scolarisés. Après le mercredi toute la journée, je fais des ateliers de céramique. Et puis pendant les vacances, mais le mieux c'est que je vous donne ma petite adresse mail.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, vas-y. Diffuse-nous ça.
Donc c'est expression avec un S à la fin parce qu'il y en a plusieurs.
D'accord.
0900, c'est le code postal de Pamiers, @gmail.com. Et si vous désirez avoir des informations, vous m'envoyez votre adresse en m'expliquant ce que vous voulez et je vous réponds. Voilà. Et comme ça, au moins, on peut
expression avec un S, 0900@gmail.com, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de noter.
C'est super, merci.
Et je travaille avec des enfants tout petits, jusqu'au pépé mémé, assez âgé.
Je t'avoue,
ça nous tente bien.
Je verrais bien faire un petit tour avec mon fils.
Le papa et le fils ensemble à tripotouille, je me le sens.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à Koba. Vous, c'est super.
Bon, et bien, merci Koba.
Bon, tu restes avec nous, Koba.
Je reste avec vous.
Vous restez quand même avec nous pour la suite. Et la suite, c'est...
J'ai oublié de jouer ici. Il y a un truc qui me travaille quand même. J'ai tellement de choses dans la tête que... Dans ma compagnie, Bric-à-Brac de l'Extrême, j'ai aussi deux autres acolytes quand je suis autour des pièces de théâtre qui me donnent toujours un coup de main. Et c'est un coup de main essentiel pour que tout le monde soit à l'aise. Ce sont deux anges de la DAPI. Et j'ai Marie-Christine Falcou, que j'adore, et Patrick Bassuet. Ces deux personnes, en plus, dans mon équipe de théâtre, Bric-à-Brac de l'Extrême, sont essentielles à mon travail pour qu'on puisse être heureux. Voilà, c'est tout ce que je dirais.
Bah, merci à eux s'ils nous écoutent.
Alors, joli clin d'œil.
On va passer sans transition au top de Max.
La meilleure rubrique, bien sûr. Bon, ça va être dur de faire mieux que Maya quand même. Elle a mis le niveau aujourd'hui. Alors moi aujourd'hui, je voulais. Alors à la dernière émission, j'avais dit que j'avais parlé de podcast, et puis j'avais dit que je parlerais de séries. Alors, intéressant un petit peu, je vous avoue que quand même, il y avait quand même beaucoup de choses. Voilà, sachant que moi, je veux donner un petit peu, des recommandations, des choses qui m'ont un petit peu touché. Alors bon, effectivement, moi, mes séries préférées, c'est des trucs ultra connus que tout le monde a parlé, donc j'avais pas envie de parler d'une énième fois de Breaking Bad ou de Game of Thrones. Alors, j'ai pris ça sous un angle différent. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de trois séries sous l'angle de la féminité. Voilà, des séries où les personnages principaux sont des femmes. Et on va dire, en plus, vous allez voir sur un angle un petit peu chronologique. Vous allez comprendre. Alors, la première petite pastille que j'ai bien aimée, c'est une série qui s'appelle Fleabag. Donc, c'est une série qui est disponible... Alors, je ne fais pas de la pub pour les plateformes, c'est juste à titre informatif. Donc, qui est distribuée par la plateforme Amazon Prime Video. Donc, c'est une série anglaise. C'est des épisodes de 20 minutes. C'est sur une femme... j'ai envie de dire trentenaire, voilà, c'est une série qui se passe dans
dans notre époque contemporaine. Donc c'est une trentenaire qui on va dire qu'elle est célibataire, qui subit un petit peu la pression sociale, non seulement sur son célibat, sur sa vie active, qu'il faut réussir, tout ça. Donc c'est plutôt une série qui est très très drôle, avec de l'humour anglais très décalé. Voilà, il y a un petit fond d'une histoire un petit peu tragique, mais toujours vue sous un angle, j'ai envie de dire, très touchant. Et donc c'est très drôle, il y a des situations cocasses, les épisodes sont courts, et puis surtout c'est une série qui fait 2 saisons et après c'est fini. Donc on n'est pas obligé de se taper, d'attendre à chaque fois, chaque année, la 12e saison, d'avoir la fin. Là ça dure 2 saisons, je crois qu'il y a 10 d'épisodes par saison, donc c'est super, ça se mange bien. Voilà, ça se regarde bien, ouais, ça se mange bien, c'est quand même un petit bonbon, hein, voilà,
et ça change des séries qui se terminent jamais, quoi.
Voilà, voilà. Donc
t'arrives à la 4e saison, c'est pas fini, et la 5e saison ne sort jamais.
Voilà, c'est ça.
Genre Dynasty, 25 ans.
Voilà. On parle de Santa Barbara et tout ça.
Voilà. Donc la deuxième série dont je voulais parler, alors celle-ci elle est peut-être un petit peu plus connue, mais bon, elle a fait un petit one shot, et puis après on n'a plus trop parlé. Moi je pense qu'elle est toujours consommable maintenant. Ça s'appelle Le jeu de la dame, ou dans le texte original c'est The Queen's Gambit, qui est voilà, c'est une série qui est adaptée d'un roman. Le roman est super aussi, je l'ai lu.
Moi je l'ai vu, voilà. C'est bien.
Voilà, c'est voilà, c'est voilà. Ouais. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est orpheline et qui va devenir championne d'échecs. Donc ça commence, hein, dans un orphelinat, dans la cave du technicien de l'orphelinat, une petite fille qui apprend à jouer aux échecs sur un cajot d'une caisse de whisky, et puis qui va finir à Moscou, dans un tournoi international d'échecs. Alors c'est pas mal aussi, parce que du coup on voit aussi un petit peu par rapport à l'affinité d'une autre type d'émancipation de la femme, c'est-à-dire que ça se passe dans les années 70, si je me souviens bien. Et donc, on voit un petit peu aussi comment ce personnage-là va être un petit peu confronté aux attentes un petit peu de l'époque, et comment elle va un petit peu s'en sortir, et comment elle va un petit peu défrayer la chronique, et tout en étant une femme extrêmement intelligente. C'est triste, c'est aussi drôle des fois. Alors, bon, sans vouloir faire mon macho de base, l'actrice est magnifique. Elle joue très très bien. Donc, ça se regarde. C'est une série pareille en une saison, vu que c'était une adaptation d'un roman. Je crois qu'il y a 6 épisodes de 1h, 1h10. Donc, ce qu'on appelle une mini-série. Donc voilà, ça c'est super. Et puis, ça donne envie de jouer aux échecs après.
T'as fait un pléonasme là, Max.
Ah,
t'as dit femme intelligente.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La dernière série, alors celle-ci j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle La fabuleuse Mrs. Maisel. Alors ça se passe au sein d'une famille juive du New York d'après-guerre. D'une femme, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui va se faire larguer par son mari. Une femme, mère de famille, 2 enfants, femme au foyer d'un milieu assez aisé, voilà, qui se fait larguer, quoi. Son mari veut divorcer. Et puis elle se découvre en fait que c'est une femme très drôle, et qu'elle va se mettre au stand-up. Alors donc c'est super, parce qu'on va voir tout son parcours au début, qu'elle va commencer dans des vieux bouges à jouer avec du stand-up, des spectacles d'humour. Voilà, des spectacles d'humour. Voilà. Mais c'est pas des spectacles à sketch, vous savez, le stand-up c'est une pratique humoristique où on se lève et puis on raconte un petit peu notre vie, et puis on tout ça en le faisant de manière drôle. Voilà, c'est pas des sketchs, voilà, c'est pas ce genre d'humour là. Qui est très populaire même maintenant en France, hein, mais bon, qu'on voit qu'aux États-Unis ça marchait déjà dès l'après-guerre, hein, en fait, hein, ce genre de spectacle. Donc on voit un petit peu ses déboires, voilà, aussi en tant que femme, en fait. Donc elle doit se démêler, elle est perdue entre le fait de elle est en train un petit peu de perdre sa condition sociale de femme aisée parce qu'elle s'est mariée, donc elle doit se reconstruire un petit peu une vie avec ce statut de mère célibataire trentenaire, voilà, qui est pas très très bien vu. Et puis en même temps, elle veut, elle, conquérir le milieu du stand-up. Elle se trouve drôle, elle veut être célèbre. Donc elle a son acolyte, c'est une agent qui à la base qui est plutôt une barmaid, mais qui devient son agent. Donc c'est vraiment très drôle. Et puis ce que j'aime beaucoup dans cette série, alors c'est pas fini, je crois qu'on a la 5e saison va bientôt suivre. Et ce qui est bien, c'est quand souvent en fin d'épisode, en fait, on la voit faire son petit sketch, son petit spectacle, qui est très très drôle, même si elle parle de choses, on va dire, de l'autre époque, en fait, parce que voilà, ça se passe à une autre époque, c'est une autre condition de la femme à une autre époque. En fait, bah, y a des choses qui nous touchent, en fait, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on vive en 2022. Ce qu'elle raconte, ça nous fait rire. Et donc, c'est en fait très drôle. C'est parfois un peu dramatique, mais c'est quand même souvent assez drôle. Voilà. Donc, c'est une série que je vous conseille. Et celle-ci est disponible sur Amazon aussi. Et The Queen's Gambit, enfin, le jeu de la dame, c'était disponible sur Netflix. D'accord. Voilà ma petite chronique.
Excellent.
Et je sais pas si vous avez des petites séries comme ça, oh, avec femmes ou pas.
Voilà. J'en ai pas mal. Ouais. Voilà. Alors,
voilà. Ouais, bon, un petit conseil rapide, hein. Vas-y, Maya, on t'écoute.
Ma série préférée depuis X temps, alors je les ai vues, revues, c'est Malcolm.
Ah, moi aussi, je t'avoue. je me suis abonné à Disney+, et je me suis tout refait.
Ils sont complètement déjantés, et voilà. Je suis fan, en fait, des séries comme ça, où ça part en live, voilà, complet. Ouais, c'est trop est génial. Bon.
Et puis surtout avec le super acteur Bryan Cranston, qui a aussi joué dans Breaking Bad, en fait.
Ça. Ouais, voilà, ouais, ouais. Excellent. Après, les dernières que j'ai faites, c'est The Last of Kingdom. C'est historique, hein. Bon, évidemment c'est romancé, c'est hyper exagéré tout ça, mais c'est la réunion de l'Angleterre, en fait, de tous les royaumes d'Angleterre, avec le Wessex, Northumberland, bref, voilà, j'arrive pas à le prononcer,
c'est
comme
pas
d'habitude.
Grave. Et, nous non plus, on va peut-être galérer, hein.
Peut-être pas. Et les Danois, les Écossais, les Irlandais, tout ça, toute cette... conflit qu'il y avait à l'époque avant la réunion de la Grande-Bretagne. Ah, Viking Valhalla, tout ça aussi.
D'accord.
Mais c'est toujours le même truc. Après, c'est un peu violent quand même. Hein. Ouais. Je veux dire, les scènes, quand ils tranchent la tête, ouais, quoi. C'est, tu vois bien que le ketchup, en tout cas, il est vachement bien fait. Là.
Vachement. C'est du très bon ketchup.
Ouais, voilà. Mais après, c'est sympa. Et là, je suis en train de regarder, j'ai commencé un premier épisode. C'est une histoire avec les Templiers, mais il faut que je le recommence, parce que quand tu fais quelque chose en même temps que tu regardes la série, tu regardes pas forcément ton épisode. Et je crois que hier, la télé a tourné pendant une heure, puis j'ai pas regardé. Il faut que je me le remette. Voilà.
Et toi, Koba, as-tu des petites séries ou au moins un petit truc à nous recommander,
ouais,
peut-être nous faire découvrir?
J'ai l'habitude de regarder tout ça, mais ma fille l'autre jour m'a dit de regarder. Alors c'est elle m'a donné un truc pour que je puisse le mettre sur l'ordinateur.
D'accord.
Déjà. C'est compliqué pour moi tout ça, mais enfin bref, j'ai regardé donc une série japonaise sur des geishas, deux copines. Deux copines qui sont geishas, l'une qui veut devenir une maïka, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle là-bas, des maïkas, et son amie aussi. Et donc elles viennent dans cette maison fabuleuse, et c'est d'une douceur, cette série. Oh mon Dieu, comme elle est douce.
Est-ce que tu aurais le titre par hasard à me donner?
Tu n'en souviens pas très bien, je crois que c'est Maïka.
Maïka, ok. Sur
non,
quelle plateforme est-ce mis ça?
Makaki, Makiko. Écoute, je ne peux pas te dire, mais sur Netflix.
Sur Netflix, d'accord. Bon, on va essayer de piocher ça. Nos auditeurs, hein, de toute façon, si ça leur plaît, je pense que si tu as Geisha sur Netflix,
alors, attends,
sur le moteur de recherche, ça va sortir.
Elles veulent devenir Geisha, mais il y en a une qui le devient parce que... elle est apprêtée à ça, enfin c'est voilà, c'est ça. Et c'est l'autre qui devient cuisinière.
Tu sais quoi le titre?
Non,
Geisha.
Bah voilà.
Geisha.
Bon bah comme ça.
Non, je crois pas. Non.
Ah, il y a une autre série alors.
Il y a une autre série alors. Alors
Maya est en train de regarder sur son PC en direct.
Hein. Là, il y a une série qui s'appelle Geisha, et sinon l'autre c'est Makanai.
Oui.
Ah, voilà. Makanai. Allez voir absolument Makanai.
Ouais, ouais, regardez ça parce que c'est d'une douceur sans nom. Et ma fille a raison, c'est très agréable. Voilà.
Bon, et toi, Serge, alors j'ai cru entendre tout à l'heure que tu m'avais dit que tu regardais des vieux trucs. Bah,
moi,
je regarde plus
trop de séries, mais
le ton truc que tu avais aimé à l'époque. Alors,
j'en ai regardé énormément, des centaines.
T'as pas un petit truc
Et d'ailleurs, la première que j'ai regardé série qui m'a marqué véritablement, je devais avoir 8 ans, c'était Spectroman. C'était une série japonaise sur le premier Metal Hero. Mais après, toi, tu parlais des séries avec des femmes. Il y en a une qui me vient à l'esprit, là, que j'ai regardée, que j'ai beaucoup aimée à l'époque. Ça s'appelait Dead Like Me. Et on suit l'histoire d'une fille qui meurt, et d'une façon assez bizarre. C'est la cuvette le couvercle des toilettes de la station Mir qui vient la percuter.
On réduit de chronique, là. Attention, Serge.
On suit son histoire. Elle devient une faucheuse, en fait. Elle vient récupérer les âmes des gens qui ont des accidents. Et c'est tout un... voilà. Et elle n'est pas toute seule dans ce monde-là. Et elle vit au milieu de nous, elle a un travail et tout, et de temps en temps, elle a une mission, il faut qu'elle aille récupérer une âme. Voilà. C'était une série que j'ai trouvée très sympa, et avec la protagoniste principale, c'était une femme. Voilà. Après, j'en ai eu d'autres, mais bon, moi, j'étais beaucoup plus science-fiction, style à l'époque, c'était Eureka, Farscape, Warehouse 13, et surtout, la grande saga Stargate.
Ah non, Stargate.
Les 12 saisons de Stargate SG1, les 5 saisons de Stargate Atlantis et les 3 de SGU. Voilà.
Mais j'en ai juste une, vite fait, puisqu'on était dans les femmes, j'avais commencé à la regarder.
Moi, j'en ai parlé que de 3, je vous rappelle.
Il y avait Why Woman Kill. C'est des femmes, en fait, qui sont à 3 époques différentes, qui sont victimes de l'infidélité de leur mari et qui essaient de tuer leur mari.
Boules,
et
quoi.
Du coup, enfin, voilà. C'était pour faire un lien entre... C'était pour faire un lien entre ma rubrique et la tienne.
Alors, si y a des auditrices voilà, donc, qui sont victimes de ce jour-là, n'allez pas jusque-là, quand même. Hein, voilà, c'est une série.
Merci, Max.
Je vous en prie. Et donc, du coup, la prochaine... on va dire édition de l'émission, je ferai un petit top des petites recettes faciles à faire et réconfortantes que je me fais moi. Donc je donnerai un petit conseil, ça ira assez rapidement, vous inquiétez pas.
Voilà. Bon, moi j'ai pas encore décidé de mon prochain sujet, de mon prochaine
émission. Il y en a qui travaillent, un peu moins, quoi. Voilà.
Bon, mon sujet d'aujourd'hui à moi.
Ouais, allez, on va y passer au tien alors du coup. Tu l'as travaillé celui-là ou pas?
Un peu, ça va. Je vais vous parler du vent. Le vent, c'est très important finalement. D'où il vient? Qu'est-ce qui le produit? En fait, le vent, la définition du vent, c'est une masse de gaz, donc de l'air pour notre planète, qui forme l'atmosphère et qui subit les effets du rayonnement stellaire, donc l'énergie solaire, mais aussi de la rotation de la Terre. Ce qui fait que toute cette masse d'air se mettent en mouvement, et évidemment, le rayonnement stellaire ne chauffe pas les zones sur notre planète de façon égale. C'est pour ça qu'il y a ces contrastes entre des airs plus chauds, plus froids, et tout ça, en fait, ça crée une sorte de ces contrastes-là, dont on verra plus tard. C'est ce qui génère beaucoup les tempêtes, les ouragans, et tous les autres changements climatiques. Et le vent, très important le vent, puisqu'il participe à plein de choses. Le déplacement, par exemple, des insectes volants.
Ah, il y a une histoire aussi avec les maladies des arbres. J'ai vu ça dans un reportage, en fait. Comme il y a la tramontane qui souffle moins qu'avant, il y a des arbres qui chopent des maladies.
À cause du vent?
Parce qu'il y a du manque de vent. Du manque de vent.
Bon, après, voilà, le truc, c'est que, en plus d'être aussi très responsable, enfin responsable, en tout cas, la migration des oiseaux se fait grâce au vent, mais la forme de nos plantes qu'on a sur Terre, en fait, elle est définie grâce au vent. C'est parce que le vent existe sur notre planète que les plantes ont adopté une forme qui leur permet de résister, en fait, au vent. Sinon, on aurait des arbres avec des grandes feuilles presque uniques, au lieu d'avoir plein de branches avec plein de petites feuilles, de façon à ce que le vent puisse passer à travers. Mais aussi, il joue un rôle important sur la fécondation de beaucoup de plantes.
Ouais, la pollinisation. Voilà.
Et donc, je pense que là aussi, au niveau de la migration des insectes, de certaines maladies, ça joue aussi, quoi. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup plus parler de problèmes de... actuellement... c'est une maladie qui est transmise depuis certains arbres qui ont été transplantés depuis l'Italie en France. On en parle actuellement là, sur la côte méditerranéenne en ce moment. Il y a plein d'arbres là, qui commencent à être malades. Et ça les fait dessécher, ça les fait noircir. C'est un petit microbe en fait qui commence à pomper la sève de l'arbre et qui crée une substance qui fait former un champignon. Et ce champignon qui voilà. Mais bon là on sort un peu du truc du vent. Quoi. Bon le vent en fait c'est aussi les phénomènes climatiques qu'on a sur toute la planète. On utilise des échelles pour le quantifier, pour le décrire. L'échelle de Beaufort, hein, qui s'étend de 1 à 13.
C'est comme le fromage.
Le Beaufort.
En fait, c'est l'échelle de Beaufort quand ça tresse, c'est qu'il y en a avec abondance. Alors, enfin, si on le compte, hein, bien sûr. Hein, du moment que le bord est compté.
C'est un vin odorant, alors. Voilà, peut-être. Donc, en fait, cette échelle, elle est notée de 1 à 13, de vent calme.
Serge, il est fondu devant.
De vent calme jusqu'à l'ouragan, en passant par le coup de vent, la brise, la tempête. Voilà. Et puis, il y a une autre échelle qui. Il y en a plusieurs qui sont utilisées, mais les deux plus courantes, c'est celle-là, c'est celle de Beaufort et celle de Fujita, qui permet de mesurer.
Ça sent moins bon, ça, hein, cette histoire-là. Fujita, quand ça parle japonais, tout de suite, ça. Ça fait peur, quoi.
Eh bien, en fait, c'est sur les tornades. Elle permet de définir les tornades en fonction de leur puissance, et des dégâts qu'elles causent. Voilà. Donc, ces échelles-là, elles sont faites pour ça. Ensuite, le vent, eh bien, en fait, il a eu une importance. Déjà, les vents les plus puissants qui ont été répertoriés, alors ils ne sont pas sur notre planète. Il fallait bien que j'y aille dans l'espace. Hein.
Ouais. Je me disais aussi qu'à un moment donné, je suis envoyé dans l'espace.
Eh bien, c'est sur Neptune et sur Saturne. D'accord. Sur Saturne, les vents ont été mesurés jusqu'à 1000 km à l'heure.
Voilà.
Et sur Neptune, c'est, je pense, les plus puissants de notre système solaire. Jusqu'à 2100 km à l'heure.
Il y a un vent qui passe le mur du son. Alors,
là, ça me voit. Donc, nous, on a un vent, c'est un courant d'air, en fait, transatlantique, que les pilotes d'avion connaissent bien. C'est le jet stream. Mm-hmm. Hein, c'est un vent, c'est un couloir de haute altitude. Mm-hmm. Et qui va quand même presque jusqu'à 400 km à l'heure.
Ah,
et il influence énormément la durée des vols, New York-Paris par exemple, parce que c'est. Il faut savoir que la majorité des vents qui soufflent sur notre planète, ce sont des vents d'ouest, mais entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, eh bien, il y a un changement, peut y avoir un changement de sens. Voilà.
Ah, du coup, à l'équateur, ça souffle un peu bizarrement. Ça vient de là, le mur noir, là, du côté des Rio, là, tout ça, là, ça vient de se...
Tu sais que, en fait, on considère l'air comme un liquide, et donc on utilise expliquer la mécanique des vents, c'est la mécanique des fluides, avec la dynamique des fluides que l'on utilise, de même façon que l'on utilise pour les courants marins. D'ailleurs, les deux sont quand même assez liés, d'une certaine façon, puisque le vent joue un rôle très important dans l'oxygénation des océans et des lacs de haute montagne, en remuant la surface des eaux, et donc permet cette oxygénation. Il a aussi pour rôle de déplacer les agents organiques et les agents minéraux, et il peut expliquer aussi la formation de roches sédimentaires. Voilà, donc. Le vent a aussi un rôle important dans la structure et dans la physionomie de certains paysages de notre planète. Je vais vous citer deux exemples tout bêtes. C'est localisé, mais les congères de neige, c'est le vent qui les forme. Donc tout en fonction fait. Alors quand il y a de la neige ici, on voit l'apparition de quelques congères. Mais c'est vrai que dans les Grands Nords, on voit des structures magnifiques là sur les grandes étendues blanches, ça peut faire comme des pics, des formes qui sont dessinées finalement par le vent. Et ensuite, les dunes, voilà. Donc l'importance capitale aussi du vent pour l'humanité, l'imagination, l'imaginaire en tout cas, a créé des mythologies autour du vent.
Il y a tout un vocabulaire littéraire aussi autour du vent, hein,
exactement,
qui est très riche et qui est très intéressant.
Hein. Et puis il a servi pour le transport et pour les guerres. Voilà. Donc grosso modo, le vent a eu. Je peux vous citer juste rapidement Torricelli avec son baromètre, qui a été très important. Il y a aussi Blaise Pascal qui a parlé aussi du vent. Benjamin Franklin et Robert Hooke qui a inventé le premier anémomètre, l'instrument pour mesurer le vent. Mais le premier, c'est les Grecs avec la girouette qui permet de définir dans quel sens va le vent. Bon, voilà. Il y a encore d'autres choses à dire. Les noms de vent qui sont connus, Mistral, Tramontane, Sirocco.
Le Cerse le pour les Audois.
J'ai
été longtemps Audois.
Le vent, c'est très vaste, c'est très important sur notre planète. C'est très, très, très important.
Le fun.
Voilà.
Ouais.
C'est une chronique qui a dû plaire au Pépinianais, je pense. Hein.
Ouais.
Il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc, moi, j'aurais plus qu'une seule chose à dire à tout le monde, c'est bon vent.
Ouais.
Merci, c'est joli. Ouais. Eh ben bon, on va rentrer bon, alors.
Eh bien, on va remercier Cobain encore une fois.
Merci à vous, c'était merci super, extra.
Pour être venu à notre petite émission. Merci Max. Cobain.
Mais je t'en prie, merci et à toi Serge.
Et merci Maya.
Merci à vous trois.
Merci.
Et bon, on va remercier nos auditrices.
Et nos auditeurs.
Et voilà. Et on va leur dire. Bon, et bien bon vent aussi.
Sur Oxygène FM.
Sur Oxygène FM. Allez, ciao à tout le monde.
Au revoir.